Morning Edition from NPR News.
Wenn Sie Kingsland in der Haus sind.
France Inter, le 18-20.
Et c'est l'heure d'un jour dans le monde avec nos correspondants. On va prendre des nouvelles de la planète Covidée qui s'apprête, malgré les restrictions, à tourner la page de 2021. Au Japon, on va se lever tôt pour voir le premier lever de soleil. En Italie, on lancera des pétards depuis les balcons. Et à Rio, on plongera tout habillé dans l'océan. Le bruit du monde ce soir est en Centrafrique. On va parler d'un mets d'exception, les chenilles. On les ramasse dans la forêt, on les vend au marché ou on les mange frites. Il paraît que c'est très très bon. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legénie nous emmènera notamment au Sénégal où les préjugés liés aux castes subsistent. À 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Pierre Benazé à Bruxelles, comment va l'état de droit en Europe? Pas très fort en Pologne et en Hongrie. Et puis à 18h55, le monde d'après, on va se projeter en 2022. Ce sera l'année de l'axe Pékin-Moscou, nous dira Cyril Sauvageau. Comme on dit en italien, tutto il mondo è paese, le monde entier est un petit village. Bonsoir.
Corinne Audouin. Un jour dans le monde.
On s'était promis que 2021 serait bien meilleur que 2020, année de l'apparition dans nos vies du Covid-19. En cette fin d'année, en Europe, submergée par la cinquième vague épidémique, on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. Alors comment faire la fête demain soir, malgré les restrictions? Un peu partout dans le monde, selon le niveau de l'épidémie, on prépare quand même les cotillons et les pétards. Petit tour du monde en quatre étapes, en suivant les fuseaux horaires. Et on commence à l'Extrême-Orient où on rejoint Karine Nishimura en direct de Tokyo. Bonsoir Karine, ou plutôt bonjour.
Oui, bonjour, bonsoir Corinne, bonjour, bonsoir à tous.
Alors au Japon, ça devrait bien se passer Karine pour les fêtes de fin d'année puisque la situation sanitaire est plutôt bonne.
Exactement, le Japon fait figure d'exception dans ce tableau. Alors même si une tendance haussière se dessine, les contaminations augmentent un peu ces derniers jours, on compte environ encore que 400 cas par jour, pas grand-chose, et moins de 50 personnes en réanimation. Alors il faut dire que le pays est totalement fermé, que seuls les Japonais ou les résidents étrangers sont autorisés à y entrer. Non seulement les touristes, mais également les étudiants étrangers ou les personnes qui sont censées venir s'installer au Japon pour une raison professionnelle ne sont pas acceptés et ça fait 2 ans que ça dure. La réouverture partielle très timide qui avait eu lieu début novembre a été calmée en 3 semaines avec le virus Omicron. Mais malheureusement, ces dispositions n'ont pas empêché l'entrée du variant sur le territoire. Donc pour l'instant, on va manger notre pain blanc le premier parce que les expatriés sont venus pour les fêtes de fin d'année et malheureusement, certains ont apporté avec eux le virus Omicron ces derniers jours.
Et les fêtes de fin d'année, justement, on va en parler. Karine, est-ce qu'il y a des restrictions?
Non, cette année, la seule limite, en fait, concerne la quasi-impossibilité d'aller à l'étranger. Mais pour le reste, il y a peu ou pour ainsi dire aucune restriction. Tous les restaurants, tous les lieux festifs sont ouverts. Même le grand festival d'amateurs de manga, le Comic Market, qui est bisannuel et qui réunit, tenez-vous bien, jusqu'à 700 000 personnes sur 2 jours, aujourd'hui et demain, eh bien, il peut se tenir pour la première fois depuis 2 ans. Alors, les feux d'artifice, il y en a, de même que le traditionnel tournoi de catch du 31 décembre à Tokyo. Partout, en revanche, et c'est la même chose depuis près de 2 ans, on porte un masque en permanence, une obligation sociale ici qui est de facto devenue une habitude parfaitement acceptée et respectée. Puis en plus, bon, 90% de la population vaccinable est vaccinée avec 2 doses. La 3e a à peine commencé, mais ça va venir. Alors dans ce contexte, les réservations de trains à grande vitesse, elles ont triplé par rapport à l'an passé. Ça n'a certes pas recouvré le niveau d'avant Covid, mais les lieux très prisés, par exemple les villes et villages avec les onsen, les sources thermales chaudes, eh bien font le plein cette année.
Bon, on l'a compris, hein, le Japon est le bon élève. Alors comment ça se fête le nouvel an chez vous, Karine?
Eh bien, traditionnellement, le nouvel an, c'est en famille. Et cette année, beaucoup de personnes ont choisi de faire exactement comme à l'accoutumée, c'est-à-dire de rejoindre ses parents dans sa région natale ou bien d'aller à plusieurs générations dans un hôtel pour, alors là, faire le grand show, hein, se lever tôt pour le premier lever de soleil, partager la traditionnelle nourriture du nouvel an, aller prier au sanctuaire, etc. Le premier jour est le plus important. Alors, on commence par manger à minuit des les nouilles de sarrasin dites de changement d'année, les toshikoshi soba. Mmh. Et puis au petit déjeuner, on y va avec une coupe de saké et on mange ce qu'on appelle
le osechi ryori.
Ah oui, on y va carrément, oui. Alors c'est une cuisine spéciale qui est vraiment, vraiment que pour le nouvel an, qui est stockée dans des boîtes en bois laqué et dont chaque ingrédient, et c'est important, est un symbole pour l'année à venir de santé, de longévité, de bonheur. Alors il y a des crevettes, des haricots sucrés, des terrines de poisson, des algues, on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore. Et sans oublier bien sûr une soupe avec là des mochi, donc du riz pilé, mais il faut faire attention, il faut bien mâcher parce qu'il y a quand même un risque de s'étouffer. Alors en japonais, je vous le dis, le nouvel an, ça s'appelle Oshogatsu et on se souhaite une belle année et je vous la souhaite en se disant Shinnen Akemashite Omedeto Gozaimasu.
Alors je vous dis la même chose Karine, je ne serais pas capable de le répéter, en tout cas ça fait très envie d'aller passer un réveillon du nouvel an à Tokyo. Merci beaucoup Karine Nishimura, en direct donc de Tokyo. Direction l'Afrique australe. Malgré le variant Omicron découvert par les scientifiques du pays en novembre, l'Afrique du Sud s'apprête à faire la fête dans des conditions presque normales. Claire Bargelès, vous êtes à Johannesburg, bonsoir.
Bonsoir.
Et malgré la quatrième vague, on peut dire que la vie suit son cours en Afrique du Sud pour ces derniers jours de 2021.
Oui, contrairement aux précédentes vagues où les restrictions étaient beaucoup plus poussées, cette fois-ci, le gouvernement de Cyril Ramaphosa a fait le choix d'une stratégie assez différente. Il n'y a donc pas de confinement en cette fin d'année et pas non plus de règles trop strictes. Quelques régulations sont quand même en place. La plus contraignante, même si elle n'est plus vraiment respectée à la lettre, un couvre-feu à partir de minuit et jusqu'à 4 heures du matin. D'ailleurs, de nombreux appels venant de restaurants, d'hôtels et du principal parti d'opposition demandent au gouvernement de le lever ce couvre-feu pour demain, sans qu'il ne semble pour l'instant avoir été entendu. Les rassemblements sont aussi limités, mais la jauge est large et cela peut monter jusqu'à 2000 personnes en extérieur. Et en dehors de tout cela et du port du masque, le reste est à peu près normal. Les bars, les restaurants et les lieux de culture ou de divertissement sont ouverts. La vente d'alcool est aussi autorisée, ce qui est un point très sensible ici car elle était interdite lors des vagues précédentes, afin de libérer des places dans les hôpitaux en évitant des accidents. Mais comme les centres de soins ne sont pas submergés, la mesure très critiquée n'a pas fait son retour. Enfin, il est aussi permis de se déplacer librement entre les différentes régions du pays.
Et ce dernier point est très important, Claire, parce que ce sont les grandes vacances en Afrique du Sud.
Oui, dans la zone australe, nous sommes désormais en été et les grandes vacances scolaires ont débuté en décembre. C'est donc forcément une période où chacun rentre chez sa famille, loin des grandes villes, pour passer Noël et le Nouvel An. Ou d'autres en profitent aussi pour voyager. Et il est donc difficile de remettre des restrictions à ce moment-là. La journée, cela se traduit par l'organisation de braai dans le jardin, soit des grands barbecues organisés en famille ou entre amis, qui peuvent s'éterniser des heures et où des kilos de viande y passent. À l'intérieur des maisons, cela cuisine aussi beaucoup, notamment le plat des 7 couleurs, qui est en fait une version améliorée de l'assiette quotidienne des township, soit là encore de la viande grillée et une bouillie de maïs, mais accompagnée de beaucoup d'assortiments colorés, betteraves, tomates, citrouilles, afin de créer un plat arc-en-ciel. Et le soir, la fête continue, sans oublier ceux qui ont la chance d'habiter près de la côte, comme à Durban, à l'est du pays, où la tradition, c'est de célébrer la nouvelle année en allant se baigner en masse, une tradition qui n'avait pas pu être perpétuée l'année dernière, car les plages étaient fermées à cause de la pandémie. Sans oublier les feux d'artifice, ici il n'y a pas vraiment de grands feux organisés par les mairies, mais c'est plutôt chacun qui lance ses pétards et ses fusées depuis son jardin, en particulier dans les townships. C'est une habitude qui n'est pas sans accident, avec chaque année des blessés, et les autorités appellent donc à la prudence.
Et donc cette année, Claire, plutôt que le coronavirus, c'est la crise économique qui vient assombrir les festivités.
Oui, tout à fait. Une crise qui avait déjà débuté avant même la pandémie. En 2019, le pays était déjà en récession et cela n'a fait que s'empirer, bien sûr, avec la propagation du virus et la paralysie des activités en 2020. L'Afrique du Sud devait se redresser cette année, mais avec le variant Omicron et les émeutes de juillet, cela a un peu plus plombé la croissance. Et cela a un impact sur les festivités, car le pays est l'un des plus inégalitaires au monde. La crise a donc creusé un peu plus le fossé entre les les riches et les pauvres. Et pour les plus modestes, c'est donc une fin d'année beaucoup moins faste que les années précédentes. Un chiffre illustre la détresse actuelle. Le taux de chômage frôle désormais les 35%, avec la population la plus jeune touchée de plein fouet. Les budgets ont donc dégonflé, les caddies sont moins remplis pour les ménages les plus modestes et on se serre donc un peu plus la ceinture. Mais tous les Sud-Africains se réjouissent de pouvoir quand même souffler en famille, autour d'un bon repas ou dans les boîtes de nuit, après une année difficile.
Et merci Claire Bargelès depuis Johannesburg. Vous aussi, vous nous avez donné faim. J'ajoute que cette nouvelle année s'ouvrira avec une grande journée de commémoration en Afrique du Sud, avec les funérailles samedi de l'archevêque Desmond Tutu, infatigable combattant de l'apartheid, disparu à l'âge de 90 ans. Et au son de la Vespa, on se rapproche de la France, à Rome précisément. On nous attend Antonino Gallofaro, bonsoir.
Bonsoir.
Alors en Italie, pas vraiment de changement pour le nouvel an, puisque les mesures de restriction sont déjà en vigueur depuis début décembre. Finalement, le gouvernement italien avait pris un coup d'avance, Antonino.
Oui, ici, il n'y a pas vraiment de mesures particulières en plus pour demain soir. Ce sont les mêmes qu'on connaît déjà depuis des semaines. Pour sortir au restaurant, au cinéma ou au théâtre, il faut être muni d'un pass sanitaire renforcé, celui qu'on obtient seulement si on est guéri ou vacciné. Pour ceux qui veulent passer à la nouvelle année en dansant, bien la question ne se pose même pas, les discothèques sont fermées. Alors pourquoi on est si tranquille, vous l'avez dit? Eh bien parce que le gouvernement avait pris les devants déjà début décembre. Le Premier ministre Mario Draghi avait promis qu'il sauverait Noël et donc par extension toutes les fêtes de fin d'année. Ces mesures sont donc en vigueur déjà depuis le 8 décembre. Le président du Conseil voulait éviter à tout prix que les Italiens passent ces jours en quarantaine, comme l'année dernière. Donc ici, tout est fait pour laisser libre le plus possible ceux qui sont vaccinés, mais aussi dans le même temps limiter au maximum les déplacements de ceux qui ne le sont pas. Dans les transports publics aussi, par exemple, il faut désormais le pass sanitaire, celui que l'on peut aussi avoir avec un test rapide.
Alors limiter le déplacement des non-vaccinés, fermer les discothèques, est-ce que le risque, Antonino, c'est pas de voir fleurir les fêtes clandestines ?
Alors c'est un risque que le gouvernement prend, oui, il en est bien conscient. C'est pour cela que demain soir, les contrôles des forces de l'ordre seront renforcés. Elles seront chargées de vérifier, eh bien, dans un premier temps, que les Italiens portent bien un masque obligatoire à l'extérieur, qu'ils portent un masque de type FFP2 sur les transports publics. Mais elles devront surtout s'assurer d'empêcher tout rassemblement. Il n'y a pas de règle écrite, ce sont elles qui le jugent, mais elles le font depuis des mois déjà. Prenons Rome par exemple, il y a des places où les jeunes se retrouvent le week-end. Je pense au quartier Trastevere ou Ponte Milvio, pour ceux qui connaissent la ville. Et bien là, s'il y a trop de personnes qui se retrouvent au même endroit, la police est chargée de les disperser et d'empêcher d'accéder à la place. Cela se produit pratiquement toutes les fins de semaine, il n'y a jamais eu de problème jusqu'à présent. La police sera simplement plus attentive demain soir.
Oui, il faut dire, Antonino, que contrairement à Paris, à Rome, il n'y a pas vraiment d'événement spécial pour marquer le passage à 2022.
Non, les Italiens, et puis si on pense aux Romains ici, ne sont pas habitués à se retrouver tous au même endroit à minuit. Il n'y a pas de feu d'artifice marquant qui attire l'attention de tous. Les Italiens sont plutôt habitués à manger en famille, à la maison ou au restaurant, avant de sortir danser, de se promener ou simplement de rester à la maison. La pandémie, bien sûr, bouscule ces habitudes. Ce que ne bousculera pas, j'en suis sûr, eh bien, ce sont les petits feux d'artifice que les Italiens aiment organiser depuis leur terrasse ou dans la rue en bas de chez eux. Le maire de Rome a déjà donc interdit les feux d'artifice jusqu'au 6 janvier, mis à part les pétards et les fontaines. Et puis, comme chaque année, on lit déjà ce genre de nouvelles. Dans le sud, la police a séquestré près d'une tonne de matériel pyrotechnique illégal. Bref, malgré la pandémie, je crois qu'on a toutes les chances de voir le ciel italien s'illuminer demain soir.
Eh bien, merci beaucoup Antonino Gallofaro, en direct de Rome. Allez, on part complètement à l'ouest pour finir au Brésil avec Anne Vigna. Et comme chaque année, The Place to Be, c'est la plage de Copacabana à Rio pour fêter le réveillon. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Et la tradition veut qu'on s'habille en blanc, qu'on entre dans l'eau et qu'on saute 7 vagues avant d'assister à un grand feu d'artifice et des concerts. Alors plus de 80% des cariocas ont reçu leurs 2 doses. Et donc finalement, contrairement à plusieurs villes brésiliennes qui ont annulé le réveillon, Rio a maintenu ses festivités et on attend donc du monde à Copacabana, Anne.
Oui, normalement, oui, même si on annonce aussi beaucoup de pluie hein, et que tout peut être un petit peu chamboulé finalement. En fait, ce sont les pluies qui ont ravagé l'état de Bahia la semaine dernière qui se dirigent maintenant vers Rio. Mais c'est vrai que si la fête est annulée au dernier moment, ce ne sera pas pour cause de Covid, mais bien d'intempéries. Ce serait en fait un peu le dernier rebondissement de cette histoire. On en a vécu plusieurs hein, ces derniers mois, un peu comme dans une telenovela, vous savez, ces feuilletons à l'eau de rose que les Brésiliens adorent. Parce que début novembre, le maire de Rio, Eduardo Paes, avait convoqué la presse pour annoncer la mort dans l'âme, qu'il n'y aurait pas de réveillon. Le comité scientifique de la ville avait considéré à l'époque que les conditions n'étaient pas réunies. Et puis finalement, elles l'ont été un mois plus tard, début décembre, sans trop d'explications, alors qu'effectivement d'autres villes annulaient les festivités. Le maire de Rio reconvoque la presse pour dire qu'étant donné l'importance du réveillon à Rio, qu'il a vraiment présenté comme l'un des plus importants au monde, à côté de celui de New York et de Londres, le réveillon aurait bien lieu, mais en version simplifiée.
Et c'est quoi donc une version simplifiée du réveillon ?
Donc il n'y aura pas de concert sur la plage de Copacabana. 25 tours de son ont été par contre installés sur plusieurs kilomètres pour reproduire une musique qui sera composée par un DJ en direct. Les feux d'artifice ne seront pas non plus concentrés sur Copacabana, mais dans une dizaine de points différents dans toute la ville. Le métro fermera bien plus tôt. Il n'y aura pas de bus qui ira à Copacabana. Bref, tout. Plein de mesures ont été prises pour tenter d'éviter une concentration à Copacabana et que les gens fassent la fête, mais dans leur propre quartier. Alors, c'est vrai que la vie et la fête ont bien repris au Brésil après des mois très très durs ici de pandémie qui ont provoqué plus de 620 000 victimes.
Oui, il faut noter que malgré un président anti-vaccin notoire, le Brésil affiche aujourd'hui un des meilleurs taux de vaccination contre le Covid. Contrairement à Jair Bolsonaro, les Brésiliens ne sont pas réticents et sur 210 millions d'habitants, 88% des adultes ont reçu leurs deux doses, Anne.
Oui, l'adhésion ici est vraiment générale à la vaccination. Il y a très peu de personnes qui remettent en cause le vaccin, même les partisans du président. Ses propres fils se font vacciner. Le Brésil, d'ailleurs, a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe contre le vaccin en Europe. Ici, on attend avec impatience la troisième dose. On veut vacciner au plus vite les enfants. Et c'est vrai que la vaccination a permis beaucoup de choses. Par exemple, la réouverture des lieux de samba traditionnels de Rio, où le public chante debout autour de musiciens. Donc, pas bon du tout pour les contaminations au Covid. Ouais. Ces lieux fonctionnent désormais avec moins de public, le pass de vaccination. Et ils espèrent que ça va durer parce qu'ici, la culture, la musique, la fête, en général, font vivre beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, car le variant Omicron est aussi arrivé chez vous.
Oui, le nombre de cas commence à peine à remonter, notamment à São Paulo. Les musiciens, je parlais hier avec des musiciens, ils sont à la fois inquiets de cette situation pour leur santé, mais ils ont aussi beaucoup besoin de travailler parce qu'il y a presque pas eu d'aide sociale au Brésil pendant cette pandémie. À Rio, on voudrait évidemment faire le carnaval, qui est un moment très important pour l'économie de la ville, avec le défilé des écoles de samba, qui fait travailler des milliers de personnes qui travaillent déjà là, actuellement depuis le mois de juin. Le maire veut absolument le faire, il estime que c'est possible au moins de faire le défilé, puisque le lieu du défilé, le Sambódromo, est un lieu ouvert, qu'il a comparé en fait à un stade de football, où ne rentreraient donc que des personnes vaccinées. Reste donc le problème du carnaval de rue, là où aucun contrôle n'est vraiment possible, puisque ce sont des musiciens qui vont comme ça dans les rues et le public les suit. Ce 31 décembre, donc, tous les bars seront effectivement ouverts. Bien souvent, il y aura des concerts. Et ce sera un petit peu un test géant pour le prochain carnaval. Ça passe ou ça casse.
Et merci beaucoup, Anne Vigna, en direct de Rio. Et j'en profite pour souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à tous nos correspondants partout sur la planète qui font tout le sel de cette émission.
Le 18-20, Corinne Audouin, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. On ira dans la forêt centrafricaine à la cueillette aux chenilles. C'est un mets très apprécié, plein de protéines, qui permet aux habitants de gagner un peu d'argent. Et jusqu'à 19h, autour de la table, on passe sous les radars avec Sébastien Logénie.
Et nous irons au Sénégal, où le système des castes n'a pas entièrement disparu. Il provoque la polémique au cœur d'un petit village.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir, je vais vous parler d'argent, de diplomatie, de la Hongrie, de la Pologne, face aux États-Unis un peu, mais face à l'Union Européenne surtout, de diplomatie, mais surtout des cordons de la bourse.
Et le monde d'après, c'est avec Cyril Sauvageau.
Bonsoir, en 2022, Moscou et Pékin vont se rapprocher encore un peu plus. De Taïwan à l'Ukraine, il y a comme un air de guerre froide qui s'annonce.
On va voir ça, mais tout de suite on écoute Pete Doherty et Frédéric Lowe, The Fantasy Life of Poetry and Crime.
chime. Bells they chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slice shape shift across the maritime. In the estuary, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life of poetry and crime.
Le bruit du monde nous emmène en République centrafricaine. C'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. En général, on en parle pour son instabilité politique, ses conflits meurtriers. Eh bien, pas ce soir, car le pays est aussi une réserve incroyable de biodiversité. Au cœur des forêts profondes, dans l'est du pays, dans la région de la Lobaye, la saison des pluies, comme vous l'entendez, rime avec la saison des chenilles. Dans la forêt équatoriale, les larves de papillons grandissent à l'abri des arbres. Et lorsque les rayons de soleil viennent sécher les cimes, les chenilles bien dodues tombent sous leur propre poids. Il n'y a plus qu'à se baisser pour les ramasser. Une vraie manne financière et nutritive, car c'est un mets apprécié des Centrafricains qui l'attendent avec impatience chaque année. On part à la cueillette aux chenilles avec Carole Ballade.
Il est 6h du matin, on est juste à la lisière de la forêt. Et le village est entouré d'une épaisse brume ce matin. On pourrait croire que tout le monde dort, mais en réalité, c'est pas le cas.
Oui, c'est pas le cas parce que on se dépêche très tôt pour ramasser les chenilles.
Armé d'un grand sac en jute, nous marchons dans les pas de Charles Molotoala, enseignant du village de Mokinda.
Vous devez voir des chenilles partout, dans les herbes, tout ça, mais les enfants nous ont dévancés. Ils ont ramassé tout. Sinon, on devrait voir des chenilles par terre.
Un peu déçus, nous nous apprêtons à rebrousser chemin pour remettre au lendemain la cueillette, quand soudain, une demi-douzaine d'enfants surgissent comme par magie de l'épaisse forêt, l'air goguenard, avec de grosses lampes torches ficelées sur la tête et des seaux débordants de chenilles toutes fraîches.
Je m'appelle Mexan, j'habite à Bangui, mais là je suis en vacances. Je suis venu chercher les chenilles, mais là il n'y en a pas beaucoup. Il faut que j'en ramène plus. Une partie c'est pour manger, le reste c'est pour revendre et acheter des fournitures pour la rentrée.
Un groupe de 5 à 6 enfants qui ont trouvé un bon coin à chenilles apparemment. Donc on part à un rythme très soutenu à travers la jungle.
Voilà l'arbre qui produit les chenilles noires. Il y a une chenille là. Vous trouvez là.
Avec ses 64 ans et ses reins douloureux, Charles n'a plus la vivacité ni le regard aiguisé des garnements qui lui courent entre les pattes et chipent les chenilles juste sous son nez.
Je suis découragé parce qu'il faut trouver des chenilles pour avoir de l'argent. Le marché des chenilles
à peu près 3 à 4 km. On va voir s'il y a des chenilles suffisamment sur le marché. Ici, c'est le marché des chenilles. Les marchands de Bangui amènent les chenilles à Bangui et revendent sur le marché de Bangui. Elles viennent chaque matin payer des chenilles.
Je quitte Bangui très tôt le matin pour venir chercher des chenilles ici. Sur la route, il y a trop de barrières, ça coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chenilles. J'achète une bassine à 10 000, mais à Bangui, je dois parfois la solder à 12 000 à la fin de la journée.
De toutes parts, les collecteurs émergent de la forêt pour vendre les chenilles fraîches aux grossistes venus de la capitale à 3 heures de moto sur une piste détrempée. Guy Ruffin, Bangui Toumba, cultivateur de café.
C'est une période de rupture, toute activité. Même les activités champêtres, on arrête. On ne peut que vaquer aux occupations de chenilles. Parce qu'il y a la rentabilité. On n'a plus besoin de se plaindre.
Et vous, alors, vous arrêtez le café quand...
Oui, j'ai arrêté le café. Je vaque présentement, je suis à la recherche des chenilles.
La population de Mokinda vit dans le dénuement. Sans eau courante, ni électricité, ni réseau téléphonique, les chenilles sont un cadeau du ciel. Elles garnissent en saison toutes les tables, à tous les repas.
Je coupe les chenilles, elle met dans l'eau, un peu d'eau. Elle tourne sur l'eau tarie. Maintenant, elle met de l'huile. De l'huile plus en rayon et les condiments tout complets comme ça.
Charles Molotoala observe avec appétence la cuisson des chenilles. L'entomophagie, c'est-à-dire le fait de consommer des insectes, est pratiquée par près de 85% des Centrafricains. Développer la filière permettrait de lutter contre l'insécurité alimentaire, selon Mathilde Lambert de l'ONG Action contre la faim.
100 grammes de chenilles, ça a le même apport en termes de protéines que 100 grammes de viande. Vous pouvez nourrir bien plus de personnes avec un kilo de chenilles qu'avec un kilo de viande. Donc ça aussi, c'est positif. Et en fait, le fait que les chenilles arrivent sur le marché, du coup, la population consomme moins de viande, donc le prix de la viande baisse. Même les ménages les plus pauvres, pendant cette période-là, ont accès beaucoup plus facilement à des sources de protéines variées, telles que chenilles ou viande.
Chez moi, à la maison, je mange ça 24 heures sur 24 heures. Pas de variation.
La chenille.
C'est les chenilles qu'on vient de préparer ?
Oui, c'est bien préparé.
Alors on va goûter ça.
Oui.
C'est bon, hein ?
C'est bon ?
Ouais. On commence, c'est bon. Hein.
Ça goûte.
Ça goûte très bon.
Toi, par exemple. Merci beaucoup.
Voilà, des chenilles pour lutter contre l'insécurité alimentaire et parce que c'est trop bon. C'est un reportage de Carole Valade en République Centrafricaine. Merci beaucoup, Carole. Nous sommes au Sénégal, à une centaine de kilomètres de Dakar, dans un village où la survivance du système des castes provoque la controverse.
Il s'agit d'un petit village de l'ouest sénégalais, Corinne Pou, Dagné, en pleine campagne où la tension monte depuis Noël. Le 25 décembre dernier, une femme membre de la caste des griots, ce sont les dépositaires, les gardiens de la tradition orale, une griotte donc, n'a pas pu être inhumée dans le cimetière de son village, car dans le village voisin, des chefs locaux s'y seraient opposés. C'est ce que raconte une habitante dans une vidéo devenue virale ces derniers jours. Cette femme que l'on entend ici en Wolof accuse les notables de son village. Selon eux, dit-elle, l'enterrement d'un membre de la caste des griots attirerait le malheur sur le village. Pourquoi, demande-t-elle, n'avons-nous pas le droit d'inhumer nos morts comme nous le voulons, comme si nous n'étions pas sénégalais? Cette histoire défraie la chronique depuis une semaine. Des associations de défense des droits de l'homme s'en sont saisies. Elles condamnent cet acte illégal et exhortent les autorités religieuses à éradiquer cette discrimination basée sur les castes, contraire aux lois de la République. Les croyances populaires restent en effet encore vivaces dans certaines régions isolées du Sénégal. L'une d'elles assimile les griots à des êtres impurs. Dans le passé, on n'enterrait pas les griots au cœur du village, mais en dehors, dans le creux des baobabs. La pratique est désormais interdite, mais il n'est pas rare que les griots soient enterrés dans leur propre cimetière, un peu à l'écart. Les autorités religieuses et politiques du pays n'ont pas encore pris la parole sur le sujet.
Ça rappelle un petit peu les comédiens qui étaient enterrés aussi en dehors des cimetières, Molière par
exactement.
Exemple, n'est-ce pas Sébastien ? Alors, en Israël, les lois sur le divorce peuvent tourner au cauchemar pour certains pères.
C'est l'histoire d'un Australien de 44 ans, interdit de quitter l'État hébreu pendant plus de 8000 ans tant qu'il n'aura pas payé la pension alimentaire de son ex-épouse. Tout commence en Australie. Noam Peart se marie avec une Israélienne. Le couple fait 2 enfants mais finit par se séparer. La mère décide alors de partir avec ses enfants pour Israël et le père va les suivre, va faire de même pour continuer à voir sa famille. C'est le début d'un mauvais rêve. Nous sommes en 2013. Sa femme porte plainte pour non-paiement de pension alimentaire et sur ce sujet, la loi israélienne peut être très injuste, appliquée par des tribunaux religieux parfois très opaques. Le père est donc condamné à payer la totalité de la pension de ses 2 enfants jusqu'à leur majorité s'il veut pouvoir sortir du pays, autrement dit 3 millions de dollars d'un coup, s'il veut quitter Israël avant l'année 9999, totalement kafkaïen. Concrètement, Noam Peart se dit enfermé en Israël depuis 2013 et il ne serait pas le seul dans ce cas.
They treat everybody with a big hammer.
C'est un documentaire que l'on entend derrière nous, No Exit Order, réalisé sur cette question. Des centaines d'autres pères seraient soumis à ce régime juridique au point que le site du département d'État américain met en garde sur son site, donc sur l'extrême sévérité des tribunaux israéliens en matière de mariage et de divorce.
Et direction le Québec pour terminer, Sébastien, avec des enfants transformés en radars vivants.
Oui, des radars de vitesse installés directement au dos et sur le cartable des enfants. C'est une idée un peu folle de la police de Laval en banlieue de Montréal. Tout est parti l'an dernier d'une publicité, un spot pour sensibiliser les conducteurs à la vitesse près des écoles.
La limite devant l'école, c'est 30 km/h. Ça passe aux 50, 60, 70 et même des fois plus vite que ça.
Voilà, dans ce spot, on y voit des enfants marchant sur le chemin de l'école avec dans le dos, sur leur cartable, ces fameux panneaux lumineux que l'on voit à l'entrée des agglomérations aussi en France. La vitesse s'affiche en rouge quand on est au-dessus de la limite autorisée et passe au vert quand on la respecte. Des radars vivants, donc incarnés par deux charmantes têtes blondes de l'âge de 8-9 ans. Effet radical sur les conducteurs qui lèvent alors instantanément le pied. La pub a fait un carton, la ville de Laval s'en est emparée. Depuis quelques semaines, la réalité a rejoint la publicité. Un enfant tient le capteur de vitesse, c'est le matin. Un autre porte un gros cartable avec l'afficheur. Pour l'instant, c'est de la prévention. La police ne verbalise pas, mais ça pourrait ne pas durer.
Merci Sébastien Legénie. C'était votre dernière chronique de l'année. Alors, je vous souhaite un bon boudin, comme on dit dans le Sud.
Eh ben, de même.
Un petit
bon
tour
également.
Par la playlist de France Inter. I'm so happy I cry par Fantastic Negrito.
Searching for that friend of mine. Caught the devil in disguise. Still deep dishes in her pie. All them things that made me hot to make me sit and wonder why.
The worst songs on a bad day are the best songs on a good day. Stuck on replay just to feel a little more than before I have to treat them a little. Wiggle out the hole of strictly wanting to settle. I should have wanted more, but I was willing to settle. Now I'm high like a crock pot, steaming up the kettle. Puffers with my feelings like I'm Malcolm in the middle.
Le
Le blues de Fantastic Negrito sur France Inter. I'm so happy I cry. Et direction Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler de
The European Union.
Génial.
Un jour dans le monde.
Comme tous les jeudis, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est avec Pierre Benazet. Bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, vous nous parlez d'un feuilleton, celui des bisbilles, autour du respect de l'état de droit et des valeurs européennes en Europe centrale. Alors, le feuilleton a commencé il y a plus de 10 ans, mais depuis 2020, les questions d'argent sont sur le devant de la scène, Pierre.
Oui, effectivement, ça peut vraiment remonter loin parce que les tensions datent pas d'hier. Avec la Hongrie, ça dure par exemple depuis 2010, l'année où Viktor Orban est redevenu Premier ministre, puisque dès la fin de l'année, il s'est attiré de fortes critiques pour sa loi très controversée sur les médias. En Pologne, scénario similaire, ça se produit dès le retour au pouvoir en 2015 du PIS, le parti Droit et Justice, fondé par les frères Kaczynski, puisque là aussi, dès les premiers mois, les nouvelles décisions polonaises sur les médias publics et la justice s'attirent les foudres de la Commission européenne. En Pologne et en Hongrie, c'est un peu comme si le premier passage au pouvoir avait été un peu trop calme ou trop bref et que le Fidesz d'Orban et le PIS de Kaczynski s'étaient trouvé une nouvelle cible pour se construire une image de défenseur de la souveraineté. Ces deux partis ont construit une sorte de quasi-euroscepticisme d'État.
Alors ce n'est peut-être pas la raison de leur longévité au pouvoir, mais ils réussissent tous les deux à durer beaucoup plus que lors de leur premier mandat respectif. Et le bras de fer avec l'Union européenne est vraiment une constante.
Bah, c'est vrai que vu avec l'œil de la Commission ou du Parlement, les décisions qui contreviennent à l'esprit ou à la lettre des traités européens, ça vient vraiment régulièrement sur le devant de la scène. Les attaques contre l'indépendance des médias, contre l'indépendance de la justice, atteinte aux droits des homosexuels ou des minorités, ça c'est le volet état de droit, valeurs européennes, il y en a beaucoup des affaires comme ça. Il y a aussi les tiraillements politiques, on les a vus par exemple au moment de la crise des migrants, quand ces pays ont refusé la répartition par quota. On a vu aussi se former une sorte de club des réfractaires en Europe centrale avec les Slovaques et les Tchèques, dans le groupe de Visegrad, voire avec les Autrichiens. Et c'est vrai, c'est une constante, parce que lors du dernier rassemblement pro-Orban en Hongrie, en vue des élections en avril, la pancarte la plus emblématique portait comme slogan « Bruxelles égale dictature ».
Rien que ça. Et jusqu'ici, les Européens n'ont pas eu beaucoup de succès pour amener les Polonais et les Hongrois à se conformer à leur vision des valeurs européennes. Les États-Unis, par exemple, ont réussi, avec quelques pressions, à faire plier la Pologne. C'était lundi dernier, la loi sur les propriétaires étrangers dans les médias a été retoqué.
Non, effectivement, Varsovie veut pas se fâcher avec Washington, mais avec l'Union européenne, ça paraît être une question de principe. L'UE a activé déjà fin 2017 contre la Pologne l'article 7 du traité qui peut conduire jusque à une suspension du droit de vote au Conseil européen. C'est vraiment grave, mais force est de constater que le résultat est égal à peu près à zéro, alors que cet article 7, avant d'être utilisé, était surnommé l'option nucléaire. Pour l'instant, cette arme-là, elle fait un peu pchit, elle fait long feu.
Oui, alors il y a désormais une nouvelle arme, peut-être plus efficace, celle-là, c'est la fameuse conditionnalité financière. Expliquez-nous.
Oui, vous parliez de juillet 2020 tout à l'heure, c'est le fameux sommet marathon où les Européens ont fini par approuver le budget sur 7 ans et le plan de relance, 750 milliards d'euros. C'est aussi, lors de ce sommet, la conditionnalité, ce principe de lier les versements au respect de l'état de droit. La Pologne et la Hongrie ont fini par plier, ils se sont mis d'accord avec les autres, mais à condition que ce mécanisme soit validé par la Cour de justice de l'UE à Luxembourg. Et si on en croit les dernières réquisitions de l'avocat général, 15 jours, la Cour devrait le valider. En attendant, l'année se termine demain et jusqu'ici, ils n'ont pas reçu un sou, enfin pas un zlot pour les Polonais, pas un florin pour les Hongrois. Et en plus, depuis fin octobre, tant que la chambre disciplinaire polonaise, qui a le droit de révoquer les juges, n'aura pas été dissoute, la Pologne est sous le coup d'une astreinte quotidienne d'1 million d'euros imposée par la Cour de justice de l'UE, donc pas d'étrenne en vue cette année encore.
Merci Pierre Benazet depuis Bruxelles dans Un jour dans le monde. Et c'est l'heure du monde d'après avec Cyril Sauvageau.
Corinne Audouin, le 18-20.
Pour la dernière chronique de l'année, on va se projeter en 2022, Cyril. Une nouvelle guerre froide pourrait bien s'aggraver entre, d'un côté, la Chine et la Russie, et de l'autre, les États-Unis et leurs alliés, une espèce de nouveau, d'un nouvel axe, de nouveau duopole.
C'est ça, et les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en Chine dans un peu plus d'un mois maintenant vont servir de théâtre à cet affrontement. Vladimir Poutine a déjà annoncé qu'il serait bien présent à Pékin, alors que plusieurs pays ont décidé, à l'initiative de Washington, de boycotter diplomatiquement ces JO. Le chef du Kremlin aura l'honneur d'être le premier dirigeant étranger reçu par Xi Jinping depuis le début de la pandémie. Le président chinois, qui vit reclus à Pékin, a préféré faire l'impasse sur plusieurs grands rendez-vous internationaux tels que la COP26, quitte à se couper du monde au moment où le régime chinois se referme et se durcit. À Pékin, les deux dirigeants vont profiter de l'occasion pour mettre en scène leur bonne entente, alors que leurs régimes respectifs font plus jamais l'unanimité contre eux sur la question des droits de l'homme. La liste des griefs est longue comme le bras. Côté chinois, on peut citer le traitement des Ouïghours, la reprise en main brutale de Hong Kong ou l'affaire de la joueuse de tennis disparue Peng Shuai. Côté russe, la chasse aux opposants, le plus célèbre étant Alexei Navalny, la dissolution ces derniers jours de l'ONG emblématique Mémorial, ou encore le soutien au régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie.
Et il faut surtout ajouter à cette liste deux dossiers particulièrement brûlants, Taïwan et l'Ukraine.
Ce sont les lignes rouges de Pékin et de Moscou, deux terrains sur lesquels Xi Jinping et Vladimir Poutine veulent absolument marquer leur empreinte, quitte à laisser planer la menace d'une invasion militaire. C'est vrai pour Taïwan, l'île 23 millions d'habitants redoutent de plus en plus de se faire avaler par l'ogre chinois. Le discours martial employé ces derniers mois par les autorités chinoises n'incite guère à l'optimisme. Alors Taïwan se prépare au pire et les États-Unis ont promis déjà de lui venir en aide militairement le cas échéant. La Chine prendra-t-elle le risque d'un conflit ouvert avec Washington pour mettre au pas cette île qui lui échappe ? C'est l'une des grandes inconnues de la période à venir. Et puis, plus près de nous, aux confins de l'Europe, l'Ukraine pourrait être un autre point chaud de 2022. La Russie a massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière. Vladimir Poutine ne veut pas de l'OTAN aux portes de son pays. À ses yeux, il en va de l'honneur et de la sécurité des Russes. Est-ce que c'est une simple démonstration de force ou une véritable menace ? L'hypothèse d'une offensive militaire est désormais prise au sérieux par les observateurs, même si le chef du Kremlin semble vouloir laisser la porte ouverte à des négociations. Un entretien téléphonique avec Joe Biden est d'ailleurs prévu ce soir avant une rencontre en tête-à-tête Biden-Poutine. Ce sera le 10 janvier à Genève.
Et justement, Cyril, face à cette montée des tensions, comment réagissent les États-Unis et leurs alliés ?
Eh bien, ils cherchent la réponse adaptée. À Washington, le retour des démocrates à la Maison-Blanche après les années Trump a forcément suscité beaucoup d'espoir. Mais depuis un an, Joe Biden s'est contenté de remettre en avant certains principes moraux, de redonner un peu de lisibilité à l'action internationale des États-Unis. Le sommet virtuel sur la démocratie, organisé le mois dernier à son initiative, visait justement à présenter un front uni face au régime autoritaire. Au passage, si l'idée était d'agacer Pékin et Moscou, on peut dire que l'objectif est rempli. Mais les États-Unis ne semblent plus en mesure de mobiliser leurs alliés aussi facilement qu'autrefois. S'il fallait par exemple faire face à l'armée russe en Ukraine, ce serait très compliqué compte tenu des dissensions au sein même de l'OTAN. C'est un vrai test de crédibilité pour les Occidentaux sur leur capacité à taper du poing sur la table et à paraître crédible face à des régimes qui ne jurent que par la manière forte. Faut-il pour autant craindre un embrasement en 2022 ? La Chine comme la Russie ont-elles intérêt à déclencher un conflit armé ? N'y a-t-il pas surtout, au-delà des bruits de bottes, une bonne part de bluff, d'intimidation, de volonté de marquer son territoire pour renforcer sa zone d'influence ? C'est la lecture la plus optimiste, alors on va faire un vœu pour 2022, que cette nouvelle guerre froide qui s'annonce reste froide, ce serait un moindre mal.
Merci, c'était Le Monde d'après avec Cyril Sauvageon.